Bienvenue dans notre atelier. Donc, on est éco-CO2 et dans cet atelier, on a prévu une petite animation avec WooClap. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, on vous propose en fait de scanner le QR code suivant. En fait, WooClap, ça va nous permettre de faire des petites questions, un petit questionnaire au fil de l'eau. Donc, soit vous pouvez scanner le QR code, soit ça ne marche pas. Et dans ce cas-là, vous devez vous rendre sur WooClap.com et rentrer l'événement qui s'appelle EcoCO2. Et si vous n'avez pas le Wi-Fi, pour rappel, c'est Pro Durable et édition 2023 en minuscule le mot de passe. Donc EcoCO2, bah, qui on est ? Enfin, là, l'objectif, c'est de vous parler un peu de la transition écologique, en tout cas au sein des entreprises. Et pour ce faire, on a Coralie qui est avec moi, qui est docteur en sociologie, et moi-même qui vais présenter l'entreprise et qui suis à la fois présidente, mais aussi docteur en psychologie sociale. Et donc, notre intitulé s'appelle « Connaître, comprendre et mesurer, est-ce que ça suffit ?» pour une transition énergétique durable. Du coup, on présentera la société, on viendra aussi également sur les contextes et les enjeux auxquels on fait face aujourd'hui. Coralie présentera les fondements du changement de comportement. On vous présentera également des exemples d'outils opérationnels qu'on a pu mettre en place pour ce faire. Et puis après, on se réserve un temps au moins de 15 minutes de questions-réponses sur le sujet. Donc, EcoCO2, qui on est ? Donc, nous, on est une société de conseil qui a été créée en 2009. Aujourd'hui, on est un peu plus de 160 collaborateurs répartis dans l'ensemble de la France. Au total, on a pu sensibiliser et accompagner un peu plus de 1800 entreprises à la transition énergétique, que ce soit vraiment énergétique ou même en lien à la mobilité et les transports. Notre mission principale, c'est d'accélérer cette transition écologique par le changement de comportement. C'est là que c'est important, parce que c'est là où on se focalise. Notre métier, c'est vraiment du coup d'accompagner toutes les organisations professionnelles à réduire ça et à changer les comportements au sein de leur structure. Nos domaines de prédilection, c'est le climat, l'énergie, la mobilité et le transport, avec un historique très fort sur l'énergie depuis le début. Donc, là où on essaye de mettre l'accent, ça va être vraiment sur une démarche d'accompagnement, comme je l'ai dit tout au début. Donc, on va vous proposer du conseil, des solutions en stratégie, à la fois climat, mais aussi énergétique. Et notre objectif, ça va être de former et de mobiliser vos collaborateurs, enfin, en tout cas, les équipes qui sont au sein des structures. Donc, on s'appuie toujours, enfin, de préférence, sur une mesure de l'impact environnemental, voire énergétique dans la plupart des cas, et on va vous aider à élaborer votre stratégie et le plan d'action climat que vous allez pouvoir déployer. Et pour ce faire, on vous aide également à le déployer. Et notre objectif, hein, une des étapes principales aussi, c'est à la fois de valoriser vos résultats, que ce soit en interne ou en externe. Et petit rappel sur le contexte auquel on fait tous face aujourd'hui. Donc, on s'inscrit bien sur le plan de sobriété énergétique qui a été énoncé par le gouvernement. L'objectif, c'est bien sûr de réduire 10% de la consommation d'ici 2024 et 40% jusqu'en 2050. Comme je l'ai dit, nous, le changement de comportement, c'est à la fois qui est individuel et collectif, c'est vraiment la clé pour cette réussite-là, justement, parce qu'on se rend compte que sans mettre l'humain au cœur de toutes les solutions qui vont être apportées, ça ne va pas forcément marcher, ou en tout cas, on aura des résultats beaucoup moins efficaces. Et voilà, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que d'après plusieurs enquêtes qui sont menées auprès de professionnels, c'est que 80% des dirigeants se disent prêts à agir, ils veulent rentrer dans la transition écologique, mais personne ne sait jamais où prendre justement le problème et par quel bout. Donc l'objectif, enfin voilà, en tout cas les questions que tout le monde se pose, c'est comment on va arriver à insuffler ce changement de comportement et surtout pour que ça puisse prendre au niveau de toutes les strates organisationnelles pour que ça fonctionne, dans le but d'ancrer de manière vraiment durable, pérenne, ce changement dans l'organisation et en tout cas réduire son impact environnemental, réduire ses économies d'énergie.
Si vous m'entendez bien. Donc on va revenir effectivement un petit peu sur quand on parle de changement de comportement, qu'est-ce qu'on entend, parce que c'est un terme des fois qui peut être utilisé de façon générale, et vu que nous c'est vraiment le fil rouge, l'ADN de EcoCO2, on voulait revenir rapidement sur ces notions-là. Alors, juste rapidement, effectivement, pour donner quelques chiffres, oui, ça se voit bien, on voit aujourd'hui que pour les Français, le rôle de l'entreprise et même des collectivités locales, il apparaît vraiment comme ils ont un rôle à jouer pour les Français en matière de transition énergétique et écologique. Donc c'est vraiment une attente aussi des citoyens et des salariés. Donc on voit vraiment qu'il y a un intérêt sur cette question-là. Et c'est à partir de là où on se dit, il y a quelque chose à faire, il y a un acte à jouer, il faut aller voir, il faut travailler auprès d'eux. Et alors maintenant, on va vous faire quelques questions. Donc j'espère que vous êtes prêts. Pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, on avait mis un lien pour le QR code avec votre téléphone. Vous pouvez du coup soit scanner, soit rentrer directement sur le site. Donc voilà, c'est vraiment très rapide. Je ne sais pas si tu peux les lancer, Pauline. Ouais.
Tout le monde voit, c'est bon.
S'il y en a beaucoup qui rencontrent des difficultés techniques, on le fera autrement, mais...
Alors, première question.
26, bon, c'est pas mal. Alors, il faut se lire, non?
Ça commence.
On peut attendre un peu. Tout le monde est connecté.
Ouais, il y en a 27 personnes, oui.
9, 10, 11... Et n'oubliez pas de bien cliquer sur valider la réponse, parce que souvent on clique mais on n'appuie pas sur valider pour que ça prenne en compte.
Bon, après il y a rien.
Après il y a rien à gagner, donc
il n'y a pas d'incident. C'est anonyme en plus, nous ne savons pas qui a mal répondu.
Alors il nous reste 8 personnes.
Sinon on va spoiler.
Tac. On regarde les résultats, déjà les tendances.
Voilà, donc on voit que le pouvoir d'achat apparaît comme un des sujets majeurs. En fait, il y a une étude du CSA qui a été faite en 2021 et qui montre que vraiment la santé, c'est un des sujets majeurs pour les salariés, qui est une préoccupation très forte en entreprise. Bon, c'est aussi lié au contexte qu'il y avait à ce moment-là de la crise sanitaire. Donc, je pense qu'il y a aussi un biais lié à la période de l'enquête. Aujourd'hui, on voit que le pouvoir d'achat, c'est une question très centrale qui monte aussi sur le plan politique et social. Et la question environnementale, c'est vraiment le deuxième point d'accroche. Et là, on parle vraiment d'une enquête auprès de salariés, donc dans un contexte pas en tant que citoyen. Les personnes peuvent être différentes figures. Mais là, vraiment, en entreprise, l'environnement, ça a une place importante, et notamment auprès des plus jeunes salariés, donc la nouvelle génération. L'idée, c'est vraiment des éléments de contexte. On n'est pas là pour savoir qui est.
Deuxième question.
Après, la deuxième question, pour ceux qui voient, qui ne sont pas connectés, quand même, on peut les donner. C'est quels sont les critères de succès pour... attends, c'est lequel, c'est la... Ouais. Quel est le... Ah, ils l'ont au tableau?
Oui.
Ah oui.
Bon, OK. Non, on ne voit pas. Ah si, c'est bon. Okay. Oh, tu peux la lire, quand même, t'inquiète.
Oui, quel est le pourcentage, du coup, selon vous, de personnes qui aimeraient être formées à la transition écologique dans leur entreprise? Après, je pense quand on arrive à 20, oui. Peut-être pas.
Ah, ça monte, ça monte.
Non, pas frustré.
On est 23. Alors, on regarde ce que répondent les gens et pas forcément la réponse pour l'instant.
C'est quand même la majorité pour la bonne réponse, parce qu'effectivement, c'est bien 68% des salariés qui... attendent vraiment qu'au sein de leur entreprise, il y ait un engagement qui soit fait et qui soit formé vraiment en interne sur ces questions-là. Donc, on voit qu'il y a vraiment une attente qui n'est pas forcément toujours identifiée, mais en tout cas, là, il y a vraiment une demande des salariés sur la formation de la transition écologique. Et par exemple, ils commentent que sur une offre équivalente en termes d'emploi, ils iraient vraiment plus facilement vers une entreprise qui a déjà ces enjeux-là et des formations en interne pour une offre équivalente, on s'entend.
Ouais.
Et alors la question suivante, effectivement, alors selon l'étude d'Ecotaf de février 2023, donc on ne vous demande pas de la connaître par cœur, mais quels sont selon vous en tout cas les critères de succès pour mobiliser justement sur le plan écologique les salariés dans une entreprise? Donc il y a plusieurs réponses possibles, hein, vous allez voir, on vous a mis plusieurs thématiques. Oui, voilà. Pour donner un indice aux ceux qui n'ont pas répondu, il y en a plus que deux. Désolée pour les 15 personnes qui ont déjà validé.
Alors, on peut regarder déjà ce que les personnes répondent.
Ah. Ils vont être influencés là, en biais de les résultats.
Ah, ouais. Allez hop.
Non, tu peux. Bon, Alors, effectivement, l'engagement de la direction, c'est un point fort et on va y revenir hein, sur la question de l'exemplarité. On a effectivement, en fait, les quatre bonnes réponses, c'est toutes sauf la seconde. L'action à 100% distance, c'est celle qui n'est pas identifiée comme un facteur de réussite. Alors, ça ne veut pas dire que le fait de le faire à distance, c'est un facteur d'échec, mais c'est plutôt que souvent, ça ne suffit pas, et en tout cas, ça n'apparaît pas comme un élément important pour engager et mobiliser, en tout cas, au sein des structures. Par contre, le fait qu'il y ait une impulsion, une dynamique locale, qu'il y ait un service, des personnes qui soient engagées et repérées, à la fois dans le service RSE ou avec des personnes qui sont des ambassadeurs, donc des personnes qui sont ressources, identifiées, qui s'engagent sur cette thématique, ça c'est vraiment un point important. Et la question du créditant, donc c'est-à-dire d'avoir du temps disponible sur son temps de travail pour s'engager sur ces questions-là, ça c'est un élément aussi majeur et qui ressort beaucoup. Et souvent un impensé aussi, ou par choix ou pas, mais là où il y a des arbitrages qui sont faits au niveau des directions, mais c'est vrai que c'est une question, un point de tension qui peut permettre un engagement plus fort des salariés quand ils ont un temps qui leur est consacré. Bon, voilà, je passe pas plus de temps. L'idée, c'était plutôt qu'on vous donne des éléments pour prendre conscience, avoir une idée un petit peu de cette question. Dans le monde professionnel, c'est une question qui est de plus en plus importante. On le voit même sur une nouvelle génération, mais même pour les personnes, les salariés qui sont déjà en poste, où on voit qu'il y a vraiment un intérêt qui est croissant sur ces questions-là. Donc là, c'est les chiffres que je vous ai déjà un petit peu donnés, mais comme je vous disais, la question des ambassadeurs, d'avoir des personnes qui soient vraiment de référence et relais, c'est un point qui permet vraiment d'avoir une accroche et d'avoir une forme d'engagement aussi au sein d'une structure et qui vraiment permet un engagement, une réussite des actions, notamment parce que ça permet un ancrage plus fort dans le temps pour avoir un changement qui soit plus durable. Mais c'est pareil, on va y revenir, parce que c'est long. Donc, justement, là, pour rentrer plus sur la question du changement de comportement en tant que tel, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que changer de comportement, ce n'est pas forcément qu'une question de motivation, d'une action d'un individu à un moment donné, mais que changer ses comportements, c'est une inscription dans un cadre qui est sociotechnique, en tout cas, qui est plus grand, plus large. Il y a des facteurs qui sont plutôt structurels, qui sont plutôt organisationnels, qui sont liés du coup à son environnement professionnel, au prix de l'énergie à un moment donné. Ça va forcément impacter vos habitudes de consommation. Si vous avez une piste cyclable pour vous rendre au travail, ça va impacter aussi vos possibilités d'action. On peut avoir effectivement des enjeux qui sont plutôt de l'ordre social. S'il y a donc les questions de normes sociales, est-ce que vos proches, par exemple, le font déjà? Est-ce que vous avez vous-même fait l'expérience en tant qu'individu? En fait, il va y avoir des facteurs à différentes échelles, individuelles, sociales, organisationnelles et structurelles. Et c'est vraiment important d'avoir tout ça en tête, parce que si on agit forcément que sur un de ces leviers ou un de ces niveaux, on va oublier ou on va masquer les actions qu'on pourrait avoir à ces différentes échelles. Et c'est souvent, en fait, on va peut-être pas prendre en compte certains freins et donc pas mettre en place certaines solutions ou certains leviers à ce niveau-là. Donc, je passe rapidement, mais on pourra revenir. L'idée, c'est vraiment de comprendre cette complexité et la multiplicité des facteurs et des échelles qui impactent le changement de comportement. Donc là, ça, c'est un modèle de psychologie sociale, de décrypter, en fait, quand on déconstruit le changement de comportement, comment on arrive de cette étape où on parle souvent de sensibilisation. On va voir qu'il y a des outils, il y a des solutions qui sont pensées plutôt pour cette étape-là. Ou là, quand on parle de pré-contemplation, alors là, les termes, l'objectif, c'est pas que vous les reteniez, c'est plutôt de comprendre qu'il y a une logique de marche, d'étape et de rechute, mais qu'on peut du coup arriver progressivement et de bien comprendre qu'on ne passe pas forcément d'un atelier de sensibilisation à l'action et à une action durable et une habitude du jour au lendemain. Mais que souvent, c'est une approche plutôt par étapes. On prend conscience de l'enjeu, on prend conscience des difficultés. On va essayer après de prendre conscience de l'enjeu, mais comment après, moi, je mets en place quelque chose dans ma vie personnelle? Comment après je le maintiens dans le temps? On le voit tous quand on se dit, quand on a de nouvelles résolutions, parce que là, bon, c'est septembre, c'est la rentrée. En janvier, on en fera des nouvelles. On se dit qu'on veut faire plus de sport, qu'on veut arrêter de fumer, qu'on veut voir plus ses enfants. Alors, sur le principe, on a souvent une prise de conscience qu'on aurait envie, que ça serait sympa. Après, il faut voir comment c'est facile, comment on peut le mettre en place, comment on peut tester des solutions. Donc là, on va être plus proche de l'expérimentation, donc entre le 3e et 4e marche. Et comment, après, on arrive à garder cette habitude dans le temps. Alors, il y a des études qui montrent que c'est 66 jours en moyenne. Tout est dans le « en moyenne ». Pour certains, ça peut aller très vite de prendre une nouvelle habitude parce qu'elle est plus facile, elle vous apporte plus de bénéfices que votre ancienne habitude. Et pour d'autres, ça peut être un an avant d'acquérir un espèce d'automatisme où, en fait, où on ne se pose plus la question, ça nous paraît une évidence. Toujours en gardant en tête que la rechute, c'est-à-dire que vous passiez d'une nouvelle habitude, vous avez pris une habitude vertueuse de vous rendre au travail en vélo, il suffit que votre entreprise, par exemple, est délocalisée ou vous, vous changez de lieu de vie, vous pouvez peut-être perdre cette habitude. Typiquement, il peut y avoir des périodes de rechute ou voilà, des solutions. Et ça, c'est important de le prendre en compte comme une étape, entre guillemets, normale. Mais du coup, il ne faut pas la masquer et plutôt anticiper comment on travaille sur ces rechutes en amont, comment on peut réfléchir collectivement ou individuellement à, bah, effectivement, si ce scénario se présente, qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là et comment je peux anticiper cette rechute et non pas faire semblant, enfin, pas faire semblant, mais... Imaginez qu'une fois qu'on a pris cette nouvelle habitude ou qu'on s'est dit une fois « Ah bah ça a l'air bien », qu'on va le garder tout le temps et sans difficulté. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais on pourra avoir un temps de discussion après pour revenir sur chaque étape plus en détail. Mais on voulait justement plutôt avoir une discussion et échanger avec vous que faire une présentation très théorique sur tout ça. Mais en fait, ce qui est important aussi dans ces étapes, c'est qu'en fait, pour chaque personne, par exemple, quand on fait un atelier de sensibilisation, une formation, toutes les personnes ne sont pas toujours aux mêmes étapes en même temps dans un même groupe. Donc, comment on peut penser ensuite des outils pour engager collectivement qui puissent être, enfin, vraiment être à destination de ces différents profils. On peut être à différentes étapes selon les thématiques. Peut-être que sur des questions de gestion des lumières ou de la température de la clim, vous êtes très sensibilisé, vous êtes très dans l'action, et peut-être que sur d'autres points, vous l'êtes moins. Donc, c'est voilà, comment on peut bien saisir cette complexité et avoir ça en tête. Pour revenir rapidement, du coup, c'est les différents freins et leviers, justement, au changement. Dans le sous-titre, c'est ça, pour moi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la motivation, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, je pense qu'on le vit tous, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur nos bonnes résolutions, et qu'il faut vraiment... avoir en tête justement comment on communique, comment on pense tous ces freins. Par exemple, quand on parle de temporalité, souvent on a une tendance à projeter sur des temps très longs qui sont parfois déconnectés. Donc comment on arrive à remettre dans le quotidien, dans la vie, dans une échelle plutôt proche à la fois géographique, temporelle des individus pour que ça fasse plus écho, que ça puisse plus marquer les personnes. Dans le monde professionnel, on voit qu'il y a aussi un sentiment parfois d'un pouvoir d'action qui est limité ou qu'on a des craintes par rapport à son travail. Est-ce que ça va être une surcharge de travail? Est-ce que ça va être en contradiction avec d'autres injonctions, d'autres attentes qu'on a dans le cadre professionnel? Parce qu'on n'est pas effectivement salarié pour faire des économies d'énergie. Vous êtes salarié parce que vous avez des missions, parce que vous avez des fiches de poste. Vous n'êtes pas embauché pour économiser l'énergie. Et ça, du coup, il peut y avoir des fois des tensions de « bah oui, mais si j'éteins mon ordinateur le midi, parce que du coup j'économise et j'évite de le mettre en veille, est-ce que je dois venir 5 minutes avant à mon poste pour le rallumer le temps qu'il se reconnecte? Est-ce que l'entreprise accepte qu'effectivement il y a peut-être des temps de négociation? » Voilà, donc c'est des discussions et des anticipations qu'il faut avoir aussi quand on pense collectivement et que c'est pas toujours que la responsabilité de l'individu, mais c'est comment aussi au sein de l'organisation on pense ces enjeux-là. Voilà, donc j'avais mis plusieurs éléments. Alors, il y a la question des émotions. On parle beaucoup aujourd'hui d'éco-anxiété, par exemple. Donc, c'est un terme à la mode, entre guillemets. Enfin, en tout cas, il n'y a pas une définition très claire aujourd'hui, enfin, même sur le plan scientifique. Mais on voit qu'en tout cas, les émotions négatives, ça peut être un frein très important aujourd'hui au changement. Hein. Ce n'est pas récent. Il y avait eu des enquêtes sur le tabac, notamment, où on montre qu'en fait, faire peur, ça n'a pas forcément un impact sur le changement de comportement, malheureusement ou pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas un levier pour engager et prendre conscience. Enfin, ça peut faire prendre conscience, mais ça ne fait pas passer à l'action. Donc, c'est important aussi de bien repenser comment on fait une action qui ne permet pas, qui n'engage pas une responsabilisation négative où, en fait, on se sent comme une mauvaise personne ou que ça nous crée soit de la peur, soit de la colère aussi, que peut engager des fois le changement climatique. Quand on prend conscience des répercussions, ça peut aussi engager ce type d'émotions. Donc c'est plutôt voilà, comment on peut mobiliser, comment on peut chercher des ressources. Mais vraiment, le fait de tout axer sur la peur ou l'anxiété, de faire prendre conscience des enjeux sans penser comment on a des, des leviers d'action et des pistes d'action concrètes derrière, ça peut être vraiment plutôt contre-productif. Donc c'est vraiment, enfin, il faut vraiment avoir ça en tête quand on pense sensibilisation, ok. Donc là, on voit, c'est les premières marches, prise de conscience des enjeux et tout. Mais après, il faut penser qu'est-ce qu'on met en place derrière, quoi. Parce que sinon, le risque, c'est que les personnes se sentent encore plus démunies, qu'elles perdent le sens et que du coup, ça bloque encore plus parfois le passage à l'action. Voilà. Et alors, pour faire le lien justement en termes de levier, l'avantage, c'est que les émotions positives, à l'inverse, sont plutôt propices justement pour engager des actions, pour créer une dynamique positive. Donc on voit que les émotions positives, vraiment, il y avait des études qui ont montré que ça avait un impact plus fort que l'âge ou la classe sociale sur le changement, mais que vraiment, quand on arrive à créer une bonne dynamique sur la peur et l'espoir, mais plutôt de se dire, bah oui, on peut agir, on peut tous participer à cette transition écologique, et on peut rendre ça, pas sous l'angle de, oui, le monde va s'effondrer, mais plutôt, voilà, agissons collectivement, créons du lien, imaginons la société de demain sur un angle plutôt, voilà, plus de... d'engagement, d'élan en fait collectif, ça permet d'engager vraiment collectivement. Et puis voilà, j'avais mis l'exemple du warm glow, c'est cette émotion positive quand on fait une bonne action, ce ressenti en fait de se dire bah positif quoi, une émotion positive de bah je participe, je me sens mieux d'avoir mis en place ce genre de choses. Donc on avait mis trois grands pôles justement de levier, si on pouvait en synthétiser tout ça pour pas tout lire. L'idée par exemple, c'est sur le premier pôle, c'est vraiment comment on peut faire preuve d'exemplarité. Ça, c'est un levier très fort et on le voit notamment à l'échelle de la direction, qu'on voit que c'est un enjeu très fort aussi d'avoir un modèle qui soit cohérent, que ça soit pas forcément qu'une action qui soit mise à destination des salariés, mais comment on peut avoir un engagement global et qu'il n'y ait pas d'incohérence entre le discours et les pratiques qui peuvent être menées. Enfin, si toute la direction continue de se déplacer en avion alors qu'on demande aux salariés d'utiliser le train, typiquement, c'est une dissonance qui peut créer des conflits et du coup un sentiment de bah, pourquoi moi je ferais l'effort alors que les autres ne le font pas, ou ce genre de choses. Sur le deuxième point, on va avoir du coup la concrétisation, comment on favorise les expérimentations. Donc là, c'est vraiment, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur les étapes du milieu, ou comment on arrive à tester des solutions, comment on peut mettre en place des solutions où on teste en fait. Parce que c'est là où, si on n'essaye pas, c'est difficile d'adopter une nouvelle habitude. Donc il faut mettre en place aussi un cadre propice pour pouvoir engager ces expérimentations, donc réfléchir collectivement aussi, bah, qu'est-ce qui peut être mis en place à l'échelle de l'organisation. Et le dernier, du coup, c'est vraiment favoriser les partages d'expériences. Donc ça, c'est notamment pour pouvoir maintenir dans le temps les bons comportements et puis diffuser, en fait, au sein des organisations. Donc comment on trouve des temps, des espaces, même immatériels, hein, je veux dire, même sur un Teams, pour pouvoir discuter, échanger, partager des conseils, des retours d'expérience, justement, liés aux expérimentations, pour pouvoir créer à la fois une communauté et puis pour avoir des gens qui sont des fois dans des situations très similaires à soi, qui vont se rendre dans le même lieu de travail. Donc, il y a vraiment un sentiment aussi de proximité qui permet de renforcer le partage d'expérience et la pertinence par rapport au conseil. Voilà. OK. Et donc, si on va du coup maintenant sur des exemples plus opérationnels, puisque là, j'ai fait une présentation un petit peu générale qui pourrait être un changement de comportement. Comme je vous ai dit, ce n'est pas que la transition écologique, hein. Donc, nous, on a essayé de le travailler... dans nos formations, dans les outils qu'on développe. Donc j'ai synthétisé en fait dans la barre qui est en bas les différentes étapes en trois grands pôles. Hein. Enfin, je l'ai fait, mais enfin, c'est des choses qui se font, si je ne l'ai pas invité. L'idée, c'est à la fois la préparation au changement, le changement et la pérennisation dans le temps. Et on voit que pour la préparation au changement, donc tout ce qui est sensibilisation, prise de conscience des enjeux, ce qui marche très bien, bah, c'est effectivement bah, les prises de conscience. Donc on fait des jeux, des escape games, des photolangages. Si vous venez sur notre stand, on a une espèce de Time's Up, pour pas dire le nom. Plus Milburn, ouais, de gestion, enfin pour avoir conscience des ordres de grandeur, de qu'est-ce qu'ils consomment ou pas. Là, c'est vraiment un niveau de prise de conscience. Vous n'allez pas monter en compétence sur la question de l'énergie ou de l'optimisation, changement de comportement. On est encore sur les deux premières étapes. Et ça vous donne, ça vous engage après pour arriver justement sur une étape plutôt de changement, où là, l'objectif, c'est plutôt d'avoir des jeux qui sont un petit peu plus complexes. Là, on a développé notamment un jeu sur le changement de comportement, par exemple, où là, c'est vraiment une approche plutôt théorique qu'on va aider en fait les professionnels, ou les personnes, les adultes en tout cas, à mobiliser des concepts du changement de comportement pour justement saisir la complexité, comme je disais tout à l'heure, des différents niveaux, différents facteurs structurels, organisationnels, et chercher des exemples concrets d'actions qu'on peut mettre en place dans sa structure. Là, typiquement, c'est déjà, on commence à arriver sur cette étape plutôt de formation, de montée en compétences, où les personnes se questionnent, ils réfléchissent à des solutions plus concrètes. Donc, on a passé l'étape déjà de la prise de conscience que oui, le changement, la transition énergétique et écologique est importante, mais on réfléchit à comment on peut mettre en place quelque chose. Et la dernière étape, qui est plutôt sur une approche plutôt ambassadeur, ou comment on peut pérenniser le changement dans le temps, comment on peut rediffuser et partager les bonnes pratiques, comme je vous le disais juste avant. Alors, voilà. Pour faire un focus, on a par exemple un des outils qui est une charte d'engagement, qui est mobilisée notamment dans le cadre des formations, où là, l'idée, c'est quand on pense à un outil, c'est comment on peut toucher les publics qui sont à différents niveaux d'engagement et qui sont dans le même groupe. Ce qu'on constate souvent, en fait, hein, c'est que les groupes, les personnes sont différentes, des niveaux d'engagement hétérogènes, des niveaux de conscience des enjeux différents. Donc, comment on peut trouver des outils qui travaillent et qui puissent s'ancrer pour tout le monde ? Donc là, typiquement, c'est une charte qui est co-construite avec les participants. Ça crée ce qu'on appelle un acte préparatoire. Donc, c'est-à-dire qu'on engage en fait déjà en participant à cette charte et à sa définition, donc à choisir quels sont les actes, les actions, les éco-gestes, ça dépend comment on peut les définir, qui sont mises en place ou sur lesquels les salariés veulent s'engager sur les prochains mois ou de façon durable. Et du coup, là, c'est une décision qui est collective, qui est travaillée avec les parties prenantes, donc les salariés, les responsables RSE ou RH, ça dépend qui, et la direction. Et il y a aussi une mise en avant du caractère public, donc ça, c'est des termes qui sont un peu scientifiques de psychologie sociale, mais de comment, après, le fait que les signataires, par exemple, leur nom soit affiché comme signataire de cette charte, c'est une façon aussi de mettre en avant, nous, on s'engage. Et les personnes qui ne signent pas, ça permet aussi des fois de les faire prendre conscience. Ah bah oui, en fait, du coup, je ne me suis pas rendu compte que les trois quarts de mon bureau étaient engagés sur cette question-là. Donc, c'est important aussi de bien communiquer et de penser justement comment on communique, à quel moment, auprès de qui. Parce que ça a vraiment une importance pour capter l'attention et capter l'engagement. Parce qu'en fait, souvent, les gens ne discutent pas forcément de ces questions-là au bureau. Mais
sur nos progrès. Donc, on a dû fixer un certain nombre de cibles.
Bon, je ne sais pas qui voulait échanger sur cette question, mais voilà, du coup, je vais... ça m'a... Je te laisse, Joanne.
Un autre exemple d'outil qu'on a pu développer au sein de l'entreprise, c'est justement une plateforme en ligne qui permet à la fois de mesurer la consommation d'énergie et de confort et de faire monter en compétences justement les personnes qui vont l'utiliser. Toutes les informations sont sur une plateforme. Elle est à la fois utilisable par les responsables RSE ou par les responsables, les facility managers, ce genre de choses, mais également pour les salariés, si l'entreprise le souhaite. Et donc, au sein de cette plateforme, justement, on a mis plein de concepts, en tout cas de clés de lecture qui s'appuient sur ces étapes du changement. Déjà, on retrouve un parcours que les personnes vont pouvoir suivre pour monter en compétences dans un premier temps sur ce dont on parle. Donc là, en l'occurrence, la consommation d'énergie et le confort. Et ensuite, elles vont pouvoir fédérer les salariés autour du projet, donc en mettant en place des campagnes d'affichage d'éco-gestes, en mettant en place également plein d'autres choses et en recevant des rapports qui sont assez significatifs sur l'impact de ces campagnes, de toutes les actions qui ont été mises en place par rapport à la consommation d'énergie.
Pardon, j'avais pas le petit bouton.
Et un exemple d'étude de cas, donc ça, c'était un client qui a utilisé cette plateforme-là, donc un client qui s'appelle Unicalo, qui a environ entre 100 et 199 salariés. Donc on a équipé justement le bâtiment avec ce capteur et cette plateforme-là. Dans un premier temps, tout ce qui concerne la mesure, on s'est rendu compte avec le client que 30% de l'électricité, en tout cas, était consommée en dehors des périodes d'activité, donc pendant les périodes d'inactivité, quand il n'y avait personne. Donc déjà, on a fait tout un travail sur la réduction de cette consommation. Et la mise en place, ensuite, le client a mis en place justement toute une campagne d'éco-gestes, à sensibiliser ses employés sur l'extinction de l'éclairage, par exemple, sur les fermetures des portes, sur la climatisation. Et en l'espace d'un mois, on avait déjà mesuré 8% d'économie d'énergie. Voilà. Donc, L'avantage aussi de fédérer justement tous les salariés autour de ce projet-là, c'est que bah, les salariés s'approprient vraiment bah, à la fois ces gestes, à la fois toutes ces connaissances sur leur consommation d'énergie. Et puis clairement, on retrouve un effet rebond chez eux. Ils emmènent ça dans la sphère professionnelle et dans la sphère personnelle, pardon. Et du coup, bah, ça permet à l'entreprise de valoriser ses actions aussi bah, au sein de l'espace privé.
Bah voilà, pour conclure rapidement, ce qu'il fallait retenir, enfin ce qu'on voudrait qu'il reste en tête, c'est vraiment, moi, il n'y a pas forcément un outil miracle. Hein, là, on n'est pas là pour vous dire, bah, le changement de comportement, c'est facile, il faut faire ça, et puis tout le monde va changer pour toute la vie. L'idée, c'est plutôt qu'il y a plusieurs leviers, il y a plusieurs freins aussi, mais c'est là où il faut penser comment on peut multiplier les outils, les leviers, prendre en compte les différents facteurs pour faire face à des situations qui sont différentes, qui sont changeantes aussi dans le temps, des personnes qui sont aussi variées, dont leurs propres préoccupations ou leur vie personnelle aussi peut changer, et comment on peut mobiliser, surtout collectivement et individuellement, les individus pour vraiment imbriquer les différentes échelles aussi de décision entre les salariés et les décisionnaires, ou comme on l'a un peu évoqué en filigrane, mais la question de l'exemplarité, de la sphère dirigeante, enfin, du top management, ces enjeux-là, c'est vraiment quelque chose qui est assez central pour vraiment engager une structure et que ça se maintienne dans le temps, que ça ne soit pas une action à un moment T, mais comment on peut engager, notamment sur des parcours ambassadeurs où il y a des suivis, enfin, nous, quand on intervient, il y a des suivis dans le temps qui sont prévus aussi pour, 6 mois, 1 an après, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui continue d'être mis en place et comment on peut penser ça pour vraiment penser c'est un ancrage en fait, puisqu'on, comme on l'a vu, le changement de comportement, c'est pas une chose qui se fait à un temps court, qu'il y a des étapes et que parfois, peut-être que quand on engage un atelier de sensibilisation, on peut pas s'attendre à ce que quand on fait une enquête post-sensibilisation, est-ce que 50% des salariés aient adopté une nouvelle habitude. Mais peut-être que déjà, si on arrive à prendre conscience que au moins les 80% des personnes qui ont participé ont pris conscience des enjeux, ont réfléchi à des solutions, sont prêts à tester, c'est déjà des premières marches qui, s'il y a un suivi dans le temps, s'il y a des ambassadeurs par exemple, peut en créer un changement qui peut engager une dynamique sur un temps plus long. Et voilà, bien garder en tête que les marges de manœuvre, elles sont limitées, hein, mais même pour le décisionnaire, hein, vraiment, il ne faut pas aussi avoir une approche dichotomique, mais qu'il y ait des contraintes qui sont financières, matérielles, de temporelles, on n'a pas tout le temps non plus du temps disponible. Il y a des habitudes, le poids des habitudes, c'est aussi à prendre en compte. Donc donc c'est vraiment penser l'impact du groupe et l'exemplarité collective et penser vraiment le rôle de l'humain pour engager cette transition. Voilà, et on vous laisse discuter, échanger avec nous, avec plaisir. Il y a quelque chose après ?
Et si jamais vous voulez venir tester, on a un jeu de cartes dont on parlait tout à l'heure, on est sur le stand 97.
Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas à lever la main et je fais passer le micro. Et sinon, vous pouvez retrouver Johanna aussi demain à l'atelier Pitch à 13h qui parlera d'éco-CO2, du rachat de l'entreprise par les salariés et du parcours aussi d'éco-CO2 et du changement de comportement. Donc voilà, ça dure 30 minutes, donc demain à 13h. Et merci beaucoup. Pas de questions ? C'est bon pour vous ?
Ou des remarques, des demandes de compléments. On est là.
Ou des contradictions.
Ou des contradictions, effectivement.
Tout semble être très clair. Oui, ou peut-être parler de vos problématiques, si vous avez des problématiques et que vous voulez qu'on en discute, n'hésitez pas.
C'est sûr que c'est un sacré chantier d'engager collectivement des salariés. On s'entend que c'est toujours une approche difficile et c'est pour ça que c'est important, je pense, d'être accompagné et de multiplier aussi les actions, les outils. Mais bien de saisir, en fait, qu'est-ce qui agit à quel moment. Typiquement, les fresques, on est plutôt sur les premières étapes de sensibilisation, de prise de conscience. Et après, qu'est-ce qu'on met en place pour engager durablement ? Comment on met un plan d'action ? Comment on le construit ? Comment on l'accompagne ? Il y a une question. Allez-y.
Sinon, moi, je parle.
Bonjour. Merci beaucoup. Je m'appelle Aude Jolie et je suis consultante et je suis également très intéressée par toutes les questions de changement et de dynamique humaine et de transformation de l'entreprise en tenant compte de toutes ces dynamiques humaines. Et simplement, je travaille, moi, sur aussi des questions qui sont des questions amont de d'entreprise à mission, de raison d'être, de poser les choses tout en haut, pas seulement sur les petits gestes, et sur une réflexion de fond sur la contribution. Et je voulais savoir si vous, vous rencontriez ce genre d'approche, si vous l'adoptez, enfin, voilà.
J'ai le regard qui se tourne.
Non, on ne prend pas en compte forcément ce facteur-là pour, comment dire, dans nos études. En revanche, dont on se rend compte aujourd'hui, enfin dans d'autres études, c'est que il ne faut pas qu'on soit une entreprise à mission ou qu'on ait tel ou tel label, entre guillemets, pour rien. Il ne faut pas que ce soit simplement de la marque employeur. Il faut que ce soit incarné. Il faut que ce soit vraiment vécu au quotidien. En tout cas, c'est ce que les études d'autres études marketing montrent aussi. C'est que il faut engager... Enfin, il faut vraiment que la direction soit engagée dans ce changement-là pour que ça fonctionne. Et c'est une des étapes les plus importantes, effectivement. C'est tout ce comité de direction, enfin en tout cas toute cette direction, au-delà des labels et des entreprises à mission, il faut que ça se voit au quotidien pour les salariés, sinon ça ne sert à rien concrètement. Et aujourd'hui, on le voit bien au niveau vraiment top, si on regarde de la politique. On a un gouvernement qui nous parle de plans de sobriété, qui met en place plein de choses, etc., mais qui continue à prendre des jets privés pour faire un aller-retour de même pas 100 km. Donc du coup, on voit bien qu'il y a un décalage énorme entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et ça ne plaît pas, en tout cas ça n'aide pas au changement de comportement global, systémique, qu'on souhaite mettre en place au sein des organisations. Donc ça ne répond pas tout à fait à votre question, mais...
Bonjour, j'étais très intriguée par... Alors vous avez commencé à en toucher deux mots à ce sujet-là. Mais sur les postes ateliers, pour le maintien du changement de comportement dans le temps, au sein de la structure, est-ce que vous pourriez élaborer un petit peu plus sur soit ce que vous trouvez de votre expérience le plus efficace pour que ça se maintienne dans le temps, ou ce que vous mettez en œuvre, parce que j'ai surtout retenu la dimension d'une charte un petit peu du coup solennelle et symbolique, avec cette touche de psychologie sociale, de montrer qui s'engage, qui ne s'engage pas pour... essayer de tirer tout le monde vers le haut. Mais est-ce que ça va au-delà de ça? Est-ce que vous nous en direz un peu plus là-dessus?
Tu veux dire un mot?
Je ne vois pas précisément une formation. Par exemple, sur le parcours ambassadeur, qui est du coup de la formation pour créer des ambassadeurs au sein des structures, il y a effectivement des rendez-vous qui sont prévus avec eux a posteriori. Une fois qu'on a, entre guillemets, fait la formation, les ateliers avec eux, comment on peut avoir une personne ressource au sein de EcoCO2 pour pouvoir maintenir justement cette dimension, s'ils ont besoin de conseils, d'accompagnement aussi pour engager cette dynamique dans le temps. La charte d'engagement, c'est effectivement un des outils, on a fait un focus, mais je veux dire, il n'est vraiment pas... C'est un parmi d'autres. Quoi. Ouais.
Après, par exemple, dans la consommation d'énergie, nous, ce qu'on voit, on a fait une grande étude qui s'appelait TBH Alliance en 2015, et on a toujours ce panel. Enfin, il y avait 3000 personnes à la base. On en a toujours 800, en fait, depuis 2015. Et du coup, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est vraiment cyclique. La réduction de la consommation d'énergie, ça dépend du temps. Enfin, alors que les personnes ont vraiment adopté de nouvelles pratiques. Et en réalité, que ce soit pour la consommation d'énergie ou n'importe quel autre changement de comportement, il faut faire des piqûres de rappel. C'est obligatoire, en fait. Vous avez fait faire une formation, une fresque du climat, un an après, ou enfin même pas un an après, normalement c'est à peu près tous les 6 mois, il faut faire une piqûre de rappel, mais pas toujours la même non plus. Il faut changer un peu la forme, l'usage de ce que vous voulez mettre en place pour que les gens se disent « Ah oui, il y a ce truc-là en fait », et que ça revienne à un niveau de prise de conscience élevée, parce que on est tous dans notre quotidien, effectivement, on fait une fresque et puis après on travaille, on a des missions, etc. Et en fait, ça passe à un niveau de priorité bas. Par contre, si on a une autre piqûre de rappel qui nous dit, au lieu de la fresque, on va faire le jeu changement de comportement, ça va remonter à un niveau et c'est comme ça en fait que vous allez inscrire le changement dans la durée. C'est
en réalité, c'est ça prend énormément de temps et du coup, il faut toujours remettre ça un peu sur le tapis et puis il faut aussi aller au niveau supérieur. Toujours. Nous, par exemple, chez EcoCO2, notre niveau supérieur, c'est que dans la prime d'intéressement, on a mis un critère BGS. Voilà. Donc, en fait, qui permet de débloquer un tiers... bilan carbone, bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Si les salariés continuent à maintenir leur changement et les réductions qui sont liées au transport, à plein d'autres sujets... dans ce cas-là, ça leur débloque une partie de la prime d'intéressement. Donc, c'est un autre niveau, du coup. Il faut vraiment passer au stade, et c'est ce qu'on disait, il faut que la direction soit vraiment pour que ça fonctionne.
Justement, dépasser l'approche éco-geste uniquement ponctuelle où on fait un atelier collectif, alors que ça peut engager, les gens peuvent prendre conscience et mettre en place des éco-gestes, hein, c'est pas forcément la question. Mais déjà, pas forcément de façon... pas tout le monde. Et surtout, la question, c'est comment ça se maintient dans le temps. Parce que si c'est pour que ça marche 3 semaines, c'est 3 semaines, c'est un mois d'économie. Hein, enfin, c'est bien, je ne vais pas dire le contraire, mais c'est pas l'objectif. En tout cas, c'est pas ce que nous, on recherche.
Ouais. Puis ce qu'a montré Coralie, et sur le modèle sur lequel on s'appuie, c'est qu'on voit bien qu'il y a des étapes qui correspondent un peu à des états, si on peut faire très simple. Il y a vraiment une étape de sensibilisation où là, on va retrouver toutes ces fresques, les ateliers de tonnes, notre jeu de cartes, tout ça. Aujourd'hui, la sensibilisation, en tout cas, dire qu'on est sensibilisé à l'environnement, c'est une norme sociale. Quand on va interroger les gens dans la rue, tout le monde va vous dire « Oui, l'environnement, c'est important ». Personne ne va dire « Ah non, fuck, l'environnement, j'en veux pas ». Tout le monde se dit sensibilisé. Du coup, ça, c'est devenu une norme. Maintenant, il faut dépasser le pouvoir de la norme et de se dire « Bon, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aller plus loin ?» Et aller plus loin, ça veut dire de la formation, de l'accompagnement, de la montée en compétences qu'on ne peut pas avoir avec des simples, entre guillemets, ateliers. Voilà. Et donc l'engagement collaborateur, ça permet de monter des étapes, quoi. Avoir un ambassadeur, mettre en place des groupes, des collectifs au sein de l'entreprise, de l'organisation, ça permet de faire bouger les choses.
Oui, tout à l'heure vous disiez que effectivement vous pouviez avoir des primes d'intéressement lorsque les salariés s'engagent sur des éco-gestes, etc. Au-delà des ateliers divers et variés dont vous parliez, effectivement, il y a aussi des plans d'action qui doivent être mis en place individuellement et collectivement derrière, parce que le constat fait, so what ? Revenir 6 mois après pour refaire une fresque, ça ne sert à rien s'il n'y a pas un plan d'action qui est déployé derrière. Et lorsque vous parlez justement de ces éco-gestes, c'est déclaratif ou comment vous vérifiez que les employés effectivement font des éco-gestes ?
Nous, on ne le vérifie pas. Après, comme je vous l'ai dit, nous, on mesure. En tout cas, chez EcoCO2 en interne, on a quand même des mesures. Avec Edoui, on a toutes nos consommations d'énergie qui sont mesurées. On vérifie aussi la... Mais parce qu'on est... On est dans le métier, donc c'est pour ça qu'on le fait. Hein. On n'est pas des ayatollahs. Mais l'outil est pensé pour ça, en fait. Et de pouvoir voir justement une baisse ou une réduction. Enfin, la tendance, en fait. Et de se dire, on va dans quel sens ou dans quel sens. Après, chaque année, on réalise notre bilan carbone. Ça permet de voir aussi la trajectoire. Mais comme vous l'avez dit, il faut des plans d'action. Il faut un plan d'action. Il faut qu'il soit accompagné, ce plan d'action, c'est clair. C'est clair.
Individuel, collectif, avec des mesures d'impact.
Exactement.
Entre guillemets.
Oui, c'est ça.
Merci.
De toute façon, il n'y a qu'en mesurant l'impact qu'on peut se rendre compte, effectivement. Après, on ne va pas à la minute près, au déplacement près, ça n'aurait aucun sens. Mais au global, on voit si on va dans une bonne tendance ou pas, quoi.
Merci.
J'ai juste une question sur la plateforme. Sur la plateforme que vous avez montrée tout à l'heure, là, par rapport aux actions qui sont proposées, est-ce que c'est vraiment juste lié... Est-ce que vous proposez déjà des actions d'amélioration via cette plateforme ? Et est-ce qu'on est que sur les éco-gestes ou est-ce que vous touchez aussi aux solutions de performance en général, aux équipements, à l'efficacité énergétique, à la régulation, des choses comme ça ?
Alors là, en l'occurrence, on parle vraiment de campagne d'éco-gestes. Donc ouais, on est sur le comportement. Après, on a une pré-rentrée dans cette, avec Edoui, c'est l'optimisation tarifaire. On a aussi un accompagnement humain. Généralement, ceux qui prennent justement, c'est un abonnement, hein. Il y a 45 minutes avec un de nos ingénieurs énergie qui va faire le point à la fois sur le contrat, sur votre consommation, les équipements, etc. Mais nous, on n'est pas dans l'efficacité énergétique. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire... on peut, hein, bien sûr. On fait des diagnostics, donc on le fait, visite énergie, etc. Mais ce n'est pas nous qui allons faire les travaux, c'est ça que je veux dire, en fait. On ne va pas vous dire... on ne va pas vous aider à faire des travaux. Par contre, on pourrait vous dire que votre installation... elle est disproportionnée, par exemple, sur la puissance par rapport à...
Mais ça, c'est grâce à la plateforme ou vous avez besoin d'investigations supplémentaires ?
Là, c'est avec un accompagnement humain en plus.
Mais la puissance souscrite, ça peut être vu rapidement, par exemple, vu qu'on a directement la puissance...
En fait, au global, sur puissance, tous les éléments du contrat, ça, on est capable de le faire avec la plateforme. Par contre, sur tous les équipements... un par un, non, il faut de l'accompagnement humain pour déterminer, parce qu'il n'y a qu'une visite qui permet vraiment de le faire.
Donc, il faut être sur site et identifier chaque équipement. Alors, à moins d'avoir une personne qui soit experte en interne dans vos structures, mais c'est rarement le cas.
Mais en tout cas, en ce moment, le pré-diagnostic est offert. Donc, si jamais...
clôturer puisqu'on a passé l'heure et voilà, après n'hésitez pas à passer nous voir sur le stand ou à nous recontacter si vous voulez des questions complémentaires. Donc là vous avez vu un petit pôle plutôt SHS, mais on a d'autres casquettes chez EcoCO2, plus ingénieur animateur, formateur, que sais-je. Merci en tout cas.
Merci beaucoup.